Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes, 19h15, la carte blanche du député ce soir Modem, David Corcero. Il faut abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans, nous dira-t-il. Il nous expliquera pourquoi, évidemment. 19h20, le grand débat du Club des Idées, comment lutter contre les fake news qui menacent nos démocraties. On en débattra et on vous expliquera comment se fabrique et se propage une fausse information. La Terre est plate, le Covid est une création de l'Institut Pasteur, voilà ce que l'on entend parfois. Alors comment convaincre d'une vérité à l'heure des réseaux sociaux? On en parlera donc avec nos invités et vos questions aussi au standard déjà nombreuses. Le journal d'abord, toute l'info avec Christophe Lamarre. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Une annonce à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui quelque part reconnaît enfin que les enseignants sont particulièrement exposés à la situation sanitaire dans les établissements scolaires.
Les enseignants auront un accès prioritaire à la vaccination à partir de la mi- ou de la fin avril. Enfin, disent les syndicats qui constatent l'explosion des cas de Covid dans les écoles.
Une nouvelle accélération de la campagne de vaccination dictée par les événements. Le chef de l'État décrète la mobilisation générale pour freiner l'emballement de l'épidémie.
Les plus de 70 ans vont pouvoir se faire vaccinés dès samedi, cela représente 3,5 millions de personnes supplémentaires.
L'exécutif qui met également la pression sur les entreprises pour qu'elles favorisent encore un peu plus le télétravail.
L'enquête sur la mort de Magali Blandin, après l'émotion, la colère des proches de cette mère de famille dont le mari a avoué le meurtre. Et puis le football avec le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. France-Ukraine demain soir est déjà un premier changement pour les Bleus. L'hôtel qu'ils devaient occuper est infesté par le Covid.
Ah, la météo. Dommage. Anissa Haddadi, encore une journée printanière et voilà le printemps. Qui revient.
Après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'impose sur une grande partie du pays. Attention, le ciel va légèrement se couvrir à l'ouest et les températures seront bien plus douces demain après-midi.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est donc une promesse d'Emmanuel Macron. Les enseignants seront prioritaires pour la vaccination entre la mi- et la fin avril. Il faut dire que l'école n'est pas épargnée par les contaminations. 15 000 enfants testés positifs la semaine dernière, en hausse de plus de 50% sur une semaine.
Oui, et les profs sont aussi touchés. La difficulté de les remplacer est d'ailleurs importante. En tout cas, cette annonce présidentielle est très bien accueillie par les syndicats, à l'image de Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. On l'écoute.
C'est une annonce à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui quelque part reconnaît enfin que les enseignants sont particulièrement exposés à la situation sanitaire dans les établissements scolaires, chose que n'avait jamais pu faire Jean-Michel Blanquer. C'est un premier pas. Il faut maintenant que ça se traduise dans des engagements concrets, avec un calendrier beaucoup plus ferme qui permette à la vaccination de commencer dès la mi-avril. Il faut qu'on ait des précisions sur ce calendrier. Il faut aussi qu'on ait très rapidement des précisions sur l'organisation de la vaccination. Aujourd'hui, le président de la République a ouvert la porte. Il faut maintenant confirmer un certain nombre de choses.
Voilà, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU avec Virginie Riva. L'autre annonce de la mi-journée, c'est donc l'ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans.
Et ce, dès samedi, assure le président Macron, le chef de l'État qui veut encore accélérer la campagne de vaccination, Anne Le Gall.
Exactement, 3,5 millions de Français supplémentaires sont concernés. Les 70-75 ans sans comorbidité, ils pourront recevoir leur première injection à partir de samedi, soit dans un centre avec le vaccin Pfizer-BioNTech, soit via leur médecin ou leur pharmacien avec le vaccin AstraZeneca. Ce choix d'élargir la population cible fait suite à des remontées de terrain, explique-t-on au ministère de la Santé, car dans certains centres de vaccination, les prises de rendez-vous avaient tendance à s'espacer, laissant certains créneaux libres. Pour être sûr d'écouler les doses de vaccins et au fur et à mesure de leur réception, le gouvernement a donc choisi d'élargir la population cible. Pour autant, pas question de relâcher l'attention auprès des plus de 75 ans. Seule la moitié de cette population a reçu une première injection. Ils resteront donc prioritaires avec ces nouveaux un numéro de téléphone dédié à partir de samedi pour aider à la prise de rendez-vous. Enfin, l'assurance maladie doit aussi lancer une campagne d'appel téléphonique ciblée pour relancer les plus de 75 ans qui n'ont pas fait la démarche de la vaccination ou qui se sont découragés.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, il y a la vaccination, mais il y a aussi les gestes barrières. D'ailleurs, le gouvernement tente de clarifier le confinement. Cela donne une nouvelle campagne de communication qui s'intitule « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Il aimerait que les entreprises montrent aussi l'exemple en matière de télétravail, le gouvernement.
Oui, l'exécutif qui met la pression sur les entreprises pour qu'elles aillent plus loin en matière de télétravail. C'est vrai, surtout les entreprises privées. Et comme partout, il y a les bons et les mauvais élèves. Et le problème, Élise Dangean, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais élèves.
Oui, alors pour resserrer la vis, le gouvernement réclame aux entreprises des 16 départements reconfinés d'établir un plan d'action écrit qui devra permettre un retour à la règle du télétravail au moins 4 jours sur 5. Sur cette base, l'inspection du travail pourra mener des contrôles. Ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les petites et moyennes entreprises que représente Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME.
Ceux qui le peuvent le font, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une véritable lassitude du côté des salariés. Eux-mêmes, maintenant, trouvent très pénible de télétravailler et bien souvent, c'est l'employeur qui doit batailler pour ne pas que les salariés reviennent au bureau parce qu'eux-mêmes, très franchement, en ont assez de cette situation et ont envie de retrouver les collègues, de retrouver la vie sociale. Et c'est aussi ça, le plaisir de travailler en entreprise.
Même situation dans les plus grandes structures, hein, sauf que là, la marge de manœuvre est moins élevée. Prenez le Crédit Agricole. Vendredi dernier, une note a été envoyée à tous les salariés du siège parisien pour leur dire on continue comme avant, autrement dit 5 jours de télétravail, dont 1 sur site si le salarié le demande. En revanche, le public est toujours à la traîne. Dans les ministères à Paris, on est plutôt sur du 3 jours télétravaillé. Il va donc falloir remettre un petit coup de collier.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Le Danemark rouvrira quasiment totalement lorsque les plus de 50 ans auront tous été vaccinés. La première ministre danoise présente un plan de réouverture des écoles, des commerces, des musées et des cinémas étalés sur 2 mois. Il faut dire que le pays est en régime de semi-confinement depuis janvier. Puis ça vient de tomber à l'instant. Vladimir Poutine vient de se faire vacciner contre le Covid-19. Voilà, c'est fait pour le chef du Kremlin.
Information importante, vous avez raison mon cher Christophe de la donner
donne l'exemple.
Avant la courte pause.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal Christophe Lamarre, on parle donc de cette enquête sur le meurtre de Magali Blandin. L'avocat de sa famille parle. Pour la première fois, il n'a jamais cru à la thèse de la fugue.
Cette mère de famille de 42 ans avait disparu subitement le 10 février, un mois sans nouvelles. Et comme souvent en pareil cas, les hypothèses se sont accumulées. Non, elle n'a pas disparu volontairement. Elle a été tuée par son mari. Jérôme Gaillard est passé aux aveux devant les enquêteurs. Il a été mis en examen pour meurtre. Et pour la famille de Magali Blandin, sa culpabilité était établie dès le départ. Maître William Pinault, avocat des parents et de la sœur de Magali Blandin.
Mes clients ont émis, dès le départ de l'enquête et la disparition de leur fille et sœur, l'hypothèse d'une intervention d'un tiers et singulièrement celle de Jérôme Gaillard. Ils l'ont toujours dit.
Cette fameuse plainte qui avait été déposée au mois de septembre par la fille de vos clients pour violence conjugale, classée sans suite manifestement, qu'est-ce que ça inspire vos clients?
Ce serait faire beaucoup de grâce à Jérôme Gaillard de laisser entendre qu'il serait un homme violent sous les coups duquel la femme serait tombée après une énième séance de violence qu'il aurait moins contrôlée que les autres. Ça n'est pas un homme violent colérique, c'est déjà terrible et insupportable, c'est un meurtrier qui a froidement élaboré la disparition et l'assassinat de sa femme. Ça n'est pas tout à fait la même chose.
Et par rapport à cette plainte qui a été classée sans suite, est-ce que c'est une erreur de la justice?
C'est pas à moi qu'il appartient de le dire, mais le parquet de Rennes n'était pas tout à fait suspect de mollesse à l'égard des personnes suspectes de violences conjugales. Mes clients, en tout cas, n'ont pas de commentaires par rapport à cela, considérant que ça n'est pas tout à fait le problème de ce dossier.
Maître William Pinault, avocat donc des parents et de la sœur de Magali Blandin, au micro de Charles Guyard. Aux États-Unis, Joe Biden veut interdire les fusils d'assaut après la tuerie dans un supermarché du Colorado qui a fait 10 morts.
Le tireur de 21 ans a été inculpé, mais son mobile reste incertain. Ce massacre intervient une semaine après une autre tuerie dans un salon de massage asiatique. Là aussi, le meurtrier était âgé de 21 ans. Le débat sur la possession d'armes aux États-Unis refait donc surface et tout président qui cherche à limiter l'usage, à limiter leur usage, trouve la NRA sur son chemin, le puissant lobby qui milite pour la libre circulation des armes. Mais Joe Biden semble cette fois bien décidé à agir et à convaincre.
Nous devons agir. Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus et encore moins une heure pour prendre des mesures de bon sens afin de sauver des vies à l'avenir. Et j'exhorte mes collègues de la Chambre et du Sénat à agir. Nous pouvons interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité dans ce pays. Le Sénat doit immédiatement adopter les deux projets de loi validés par la Chambre qui comblent les lacunes du système de vérification des antécédents. Ce n'est pas et ne devrait pas être une question partisane, c'est une question américaine. Cela sauverait des vies américaines.
Alors, on verra jusqu'où va Joe Biden, puisque cette promesse, Barack Obama l'avait aussi prise à son époque, Joe Biden, le président américain qui réagissait.
Régulièrement, après les tueries aux États-Unis, chaque président fait la promesse d'interdire les armes. Et régulièrement, la NRA, qui effectivement penche plutôt du côté républicain, mais qui a ses entrées aussi parmi les démocrates, est capable de faire pencher la balance en sa faveur.
Bien, le président qui réagissait, en tout cas après cette nouvelle tuerie, qui a donc fait, je vous le rappelle, 10 morts dans le Colorado.
Le football, le début de la campagne de qualification pour le Mondial 2022 pour les Bleus de Didier Deschamps.
Oui, le sélectionneur qui a sacrifié la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, puisque les Français affronteront l'Ukraine demain soir à Saint-Denis. Alors si on met de côté ce changement d'hôtel précipité, Cyril de la Morinerie, tout va bien pour les Bleus.
Oui, tout va bien, même si cela perturbe les plans de Didier Deschamps, qui n'aime pas les imprévus. Le séjour à Enghien-les-Bains a effectivement été annulé. Plusieurs employés de cet établissement, très appréciés des champions du monde, ont été testés positifs au Covid-19. Tous les bagages ont donc été réexpédiés à Clairefontaine. Les joueurs restent dans leur bulle, dans les Yvelines, où la préparation est chamboulée. Les Bleus n'ont pas pu s'entraîner au Stade de France, où il est toujours bon de prendre ses marques avant un grand rendez-vous. Mais le sélectionneur se veut philosophe.
Comme dans toute situation, on s'adapte. Et même s'il y a la satisfaction de pouvoir être ici dans le cadre de Clairefontaine où on a tout à disposition, mais l'inconvénient, le jour du match, d'avoir un trajet en bus un peu long où parfois il peut y avoir des joueurs qui peuvent se sentir un peu perturbés. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais on va faire avec.
Pour le reste, les joueurs sont tous négatifs au Covid-19 et en bonne forme malgré l'enchaînement des matchs. Didier Deschamps estime que l'Ukraine est une bonne nation et qu'il ne faut pas se fier à la victoire fleuve 7-1 infligée en octobre dernier à la formation d'Andrei Shevchenko. Le sélectionneur devrait donc logiquement aligner sa meilleure équipe demain soir au Stade de France.
Et voilà, un petit changement d'hôtel, espérons que ça ne perturbe pas leur sommeil. En même temps, Clairefontaine, c'est un peu chez eux, les Bleus. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. France-Ukraine demain soir à 20h45 et ce sera à suivre bien sûr sur Europe 1.
C'était le journal de Christophe Lamar, merci Christophe, à demain 18h. La météo avec Anissa qui nous annonce un soleil une nouvelle fois demain, important qui va régner sur une bonne partie du territoire.
Quasiment tout le monde, en effet grâce à l'anticyclone on a du très beau temps depuis quelques jours maintenant. Demain matin le temps est très lumineux dès le début de la journée avec comme aujourd'hui dans le nord-est, sur la Bourgogne, le Val de Chaune et dans le sud-ouest, sur le Pays Basque en particulier, des brouillards matinaux. Ces nuages bas vont très vite se dissiper pour laisser place à un soleil qui va régner en maître. Alors merci à l'anticyclone pour ce beau soleil, mais demain l'anticyclone va se décaler vers l'Allemagne et du coup il va laisser passer une petite perturbation. Donc en Bretagne et sur le Cotentin, le ciel sera un petit peu plus couvert avec quelques gouttes sur le Finistère. Les températures toujours fraîches demain matin, moins 4 à 7 degrés. Et puis dans l'après-midi, 12 à 20 degrés. Là il fait bien plus doux, 12 à Dunkerque, 13 à La Rochelle, 15 à Ajaccio. 16 degrés pour Lille et Bastia, 17 à Paris et Colmar, 18 à Marseille, 19 du côté de Bordeaux et Clermont-Ferrand et 20 degrés à Cahors.
20 degrés à Cahors, pas mal.
Alors, si vous voulez, j'ai commencé à me projeter. Semaine prochaine, on aura un petit pic de chaleur, un petit pic de douceur. Avec 20 degrés sur la moitié nord et 25 sur la moitié sud. On en reparlera.
On n'en dit pas plus, vous nous raconterez demain. Merci Anissa, à demain 18h. 19h14, vous restez avec nous évidemment dans quelques secondes, le débat du Club des Idées sur la fabrique des fake news avec nos invités, avec vos questions aussi, amis auditeurs. D'abord la carte blanche avec ce soir un invité particulier pour cette semaine de la presse.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et cet invité, c'est le député Modem, David Corsero. Bonsoir.
Bonsoir.
Député du Val-d'Oise. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'on a été interpellé par l'une de vos tribunes. Vous militez, dites-vous, pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Alors vous êtes soutenu par 99 élus et 100 jeunes. Pourquoi cette volonté d'abaisser le droit de vote à 16 ans ?
Écoutez, merci pour l'invitation. Si vous me permettez juste deux secondes, je voudrais juste vous remercier parce qu'il y a très peu d'antennes qui partent de la jeunesse et je sais que vous l'avez bien fait tout à l'heure. Vous l'avez fait aussi pendant une semaine, donc je voulais vous remercier parce que c'est important. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que vous voyez, j'ai été candidat aux élections municipales à Soisy-sur-Montmorency dans Val d'Oise et je me suis aperçu pendant cette campagne que les jeunes connaissaient mieux la ville que les adultes. Parce que ça fait 16 ans qu'ils pratiquent le système scolaire, ouais. 16 ans qu'ils pratiquent les équipements sportifs de leur ville, 16 ans qu'ils pratiquent les événements culturels et les équipements aussi, 16 ans qu'ils connaissent les rues, qu'ils connaissent leurs commerçants. Donc ils ont une très très bonne connaissance. Et depuis que je suis devenu député, j'ai engagé une tournée des lycées. Et donc ça a été plutôt marquant parce que quand on discute avec eux, qu'on les écoute, parce que c'était vraiment l'objet de les écouter... Ouais. Ensemble, ils nous parlent de vote et on a repéré un point qui était assez important. Ils ont une méconnaissance des institutions et surtout, ils ne comprennent pas le rôle de la démocratie. Donc ça, c'était le premier point. Par contre, quand on ramenait ces sujets sur le local, ah bah alors là, on était bluffés parce qu'ils avaient des propositions
très concrètes.
Très concrètes. Et surtout, ouais. comme si c'était élu. Parce ouais. que pour eux, ils savent se projeter dans leur environnement parce qu'ils le maîtrisent et ils le connaissent. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que pour eux, tout est lié à plein de choses. Ça veut dire qu'ils nous parlent d'écologie, mais d'écologie sur la planète, mais aussi localement. Ils nous parlent de dette parce que l'endette de leur ville les intéresse et ils nous parlent surtout d'avenir parce qu'ils se projettent.
Oui, ce que vous dites, David Corsero, en somme, c'est vous dites les jeunes ont des idées, les jeunes ont du talent, il faut s'en inspirer et donc leur donner le droit de vote, notamment pour les élections municipales.
Alors oui, c'est leur donner le droit de vote, mais par contre, c'est bien accompagné par un apprentissage scolaire. C'est très important parce que moi, je suis une génération où j'ai eu beaucoup de cours d'éducation civique, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un connaissance et un bagage, oui. et me dire à 18 ans, je dois y aller. Et donc, nous, notre réflexion, c'est de nous dire aujourd'hui, bah, cet apprentissage, il a beaucoup été réduit. Si on agrandit cet apprentissage et qu'on les accompagne à 16 ans sur ce qu'ils connaissent le plus, c'est le local, ça crée automatiquement, certainement, une envie de continuer oui. et de voir que leur vote compte et que surtout, ça peut changer le local.
Alors, on apprend quelque chose de très intéressant dans la tribune que vous avez publiée dans le journal du dimanche, notamment sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Et on apprend qu'en Écosse, par exemple, eh bien, le droit de vote a été donné aux jeunes de 16 et 17 ans en 2014, Exactement. Et qu'ils sont 75% de ces jeunes à s'être déplacés pour voter dans les urnes. Idem en Norvège, où les élections locales ont été un franc succès, en 2011 notamment, à partir de 2011, en Autriche également. Et ça s'est traduit là-bas par une participation, dites-vous, de 90% des jeunes de 16 ans et plus aux élections locales. Donc ça fonctionne.
Justement, ça fonctionne, mais parce que aller voter, ce n'est pas un acte solitaire. Et c'est là où ça devient intéressant. On a remarqué dans les études qui ont été faites que quand on veut voter, je pense que vous allez pouvoir vous projeter, vous, quand vous allez voter, vous n'y allez jamais seul. Vous y allez soit en famille, avec votre femme, votre conjoint, ou soit quand on a 18 ans, on y va rarement avec nos parents, on y va avec nos copains et nos copines. Oui. Et c'est là justement, c'est là tout l'intérêt. À 16 ans, on habite chez nos parents. Donc, on compte sur la cellule familiale, sur le fait que si l'éducation civique est enseignée à l'école, s'il y a la stimulation, derrière les parents vont voter automatiquement, ou les enfants demandent aux parents d'aller voter, ce qui fait une théorie et une pratique qui se confirment.
Donc vous dites, ça peut être un remède anti-abstention d'une certaine manière.
Ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays que vous avez cités. Vous auriez pu citer aussi l'Allemagne, la Suisse, qui sont des pays où effectivement les jeunes vont voter. Et par contre, il y a juste un pays où effectivement en Autriche, ça a été, il y a eu un record de 90% de participation qui s'est effondré par la suite parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement scolaire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, on pallie sur les deux. Un accompagnement plus un droit de vote sur la théorie pratique locale.
Dernier point, David Corsero, que vous mettez en avant dans la tribune. Vous dites, d'autant que notre société n'a pas bougé depuis l'abaissement de la majorité à 18 ans, c'était en 1974. À l'époque, le président s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui avait senti, écrivez-vous, que les jeunes avaient leur mot à dire et qu'ils désespéraient qu'on les entende. C'était il y a 47 ans. Et vous dites, en somme, aujourd'hui, la société française est mûre pour ce nouveau changement, parce qu'il y a une espérance et il y a une attente dans notre jeunesse.
Je vous remercie parce que c'est le meilleur exemple que vous pouviez m'offrir. Exactement, en 1974, les jeunes, en mai 68, quand ils sont descendus dans la rue, ils n'ont pas crié « on veut le droit de vote ». Ils ont crié « on veut la liberté, on veut être entendu, on veut de l'écoute ». Et bien exactement, si vous regardez aujourd'hui tous ceux qui votent massivement, ce sont les jeunes de 68 qui continuent à voter. Oui. Donc effectivement,
les fameux boomers.
Exactement. Et donc en fait, nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont prêts. Et je vais vous donner deux exemples, si vous m'accordez encore un peu de temps. Vous voyez, l'engagement pour la planète.
Oui.
Tous les vendredis, les lycéens étaient dans la rue parce qu'ils voulaient un engagement pour la planète. La période de Covid a montré que les jeunes ont du talent et ils ont su exercer ce talent en termes de solidarité. Donc ils sont capables de s'engager.
Bien, merci beaucoup pour cette carte blanche. On pourrait même dire un cri du cœur.
Exactement.
Un cri du cœur signé du député Modem, David Corsero. Merci d'avoir été ce soir dans ce rendez-vous de la carte blanche dans Europe Soir. On verra si votre proposition et votre cri de cœur se matérialise demain dans l'abaissement du droit de vote, notamment pour les élections locales. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées, comment lutter contre les fausses informations et les théories conspirationnistes qui se multiplient sur Internet, les fameuses fake news, un thème important dans le cadre de notre semaine de la presse à l'école. Comment se construit une rumeur? Comment se propage-t-elle? Pourquoi aime-t-on croire à ces théories parfois sacrément farfelues? La Terre serait plate? Le Covid aurait été créé par l'Institut Pasteur? Voilà le genre d'ineptie qui circulent et qui parfois peuvent faire vaciller. On va en parler ce soir, nos démocraties. On en parle donc avec nos invités. Domiti Vio, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mon Quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quotidien d'actualité très bien fait, notamment pour les 10-13 ans. On en parle également avec Thomas Huchon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, auteur et réalisateur, spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes. On en parle également avec Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en communication à Paris 2, Assas. Une bonne entrée en matière, tiens, pour démarrer le débat. Arnaud Mercier, je commence avec vous. Comment se construit une fausse information? Est-ce qu'il y a une recette magique pour construire une fake news?
Oh, une recette magique, non, mais il y a plusieurs voies. Mais une des premières choses qu'on peut dire, c'est que avec la fabrication des fake news, c'est une sorte d'hommage du vice à la vertu. Beaucoup des gens qui fabriquent des fake news disent le plus grand mal des journalistes, des médias, on vous ment, insultes, c'est des merdias, c'est des journalopes et tout ça. Et donc, ils prétendent réinformer, et pourtant, une partie de la fabrication de la fake news imite complètement le style journalistique.
Ouais.
C'est pour ça que je parle d'hommage du vice à la vertu. Et donc, très souvent, ils vont imiter les modes de diffusion de l'information. Alors, on va reprendre des photos pour illustrer, on va reprendre des vidéos, on va les monter, évidemment, comme il faut. On va ajouter le petit commentaire qui va bien et on va faire croire que c'est une information parce qu'on a imité le code du journaliste. C'est une des façons de faire des fake news.
Et on verra dans quelques secondes qu'il y a plusieurs profils de créateurs et de diffuseurs de ces fake news avec des finalités, des objectifs qui sont bien différents selon ces profils. Puisque vous en parliez, je me permets de le préciser. Je voudrais d'abord, pour planter le décor, puisque ce débat s'inscrit aussi dans le cadre de notre semaine entre l'information et la jeunesse, on est allé cet après-midi promener notre micro à la sortie d'un collège et d'un lycée. C'est Jean-Luc Boujon qui s'en est chargé, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Voilà ce qu'en disent les jeunes de leur rapport à l'information et à ces fake news.
Je m'informe grâce sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, même sur YouTube, des fois on peut voir des vidéos. Il y a des gens connus qui peuvent partager des informations sur des trucs importants.
Les infos que vous trouvez là-dessus, elles sont dignes de confiance? Vous vous en méfiez? Vous les vérifiez?
Bah, ça dépend, mais je pense que c'est des bonnes infos en général. Si on voit ça plusieurs fois, c'est que c'est des bonnes infos.
Il faut le voir plusieurs fois, en fait.
Oui.
Pour vérifier, alors vous allez sur Internet?
Oui, sur Internet. Je tape du coup ce que je recherche et je clique sur les différents premiers liens et je regarde si c'est vrai ou pas.
Et est-ce que vous écoutez la radio? Vous regardez le 20h à la télé?
Non, je fais rien. Des fois, mes parents, ils mettent le 20h à la télé, du coup, je le regarde avec eux. Mais c'est très rare, on va dire, ça.
Et est-ce que, par exemple, acheter un journal en papier, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé?
Ah non, jamais, à part les magazines People.
Moi, ça m'intéresse pas trop.
C'est un peu trop vieux pour moi.
Qu'est-ce qui est trop vieux?
C'est pas assez sur les jeunes et tout.
Bon, il y a un peu de boulot, mais c'est quand même la réalité, Thomas Huchon. Hein. On s'informe aujourd'hui différemment, notamment les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ce qui est difficile, c'est de hiérarchiser l'information et de sourcer les informations. Il y a ce jeune homme qui dit « moi je vais sur Internet, je tape les mots-clés sur Google et puis ça me dit tout de suite si l'information est vraie ou pas ». C'est pas si simple.
Ce jeune homme me fait penser à une blague d'informaticien. Les informaticiens ont toujours un peu cette blague de dire « tu sais quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre ?» C'est la troisième page des résultats sur Google, personne n'y va jamais. Et donc, effectivement, c'est comme entrer en matière, c'est vrai que c'est peut-être un peu fort, mais non, ce que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas du tout que les plus jeunes dans notre pays sont fondamentalement plus sensibles aux fake news et aux théories du complot. Ce qui change pour eux, c'est le chemin d'accès à l'information. Comme ils accèdent à l'information par Internet, eh bien, sur Internet, ils trouvent ce qu'il y a sur Internet, c'est-à-dire un univers dans lequel il y a beaucoup plus de fake news, de fausses informations, de théories du complot que dans les médias professionnels traditionnels qui ont énormément de défauts, mais qui ont quand même un tout petit peu cet avantage-là de vérifier un peu ce qu'ils publient. Et donc, il y a quand même ce truc-là, et il ne faut pas oublier de le dire non plus, toutes les études montrent que l'immense majorité des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux sont publiées et partagées par des gens qui ont plus de 60 ans.
Oui.
Hein, donc il faut aussi replacer dans le contexte.
Mais ceux qui les croient sont plutôt ceux qui ont moins de 25. On
exactement.
Va en parler
de cette différenciation entre les deux. Qu'il y a, parce que les jeunes publient eux-mêmes assez peu de choses sur ces réseaux. Ils ont plutôt tendance à les consommer. Et en fait, Ce qui leur arrive, c'est qu'ils se trouvent dans un univers où règne ce qu'on appelle l'indivision.
Ouais.
C'est-à-dire le fait que tous les contenus se valent.
C'est un sondage Odoxa qui a été réalisé récemment. Un tiers des Français reconnaît avoir relayé des fausses informations. Et c'est vrai ce que vous dites. Les utilisateurs de plus de 65 ans ont partagé près de 7 fois plus d'articles issus de médias relayant de fausses informations que les plus jeunes, sauf que ce sont les plus jeunes qui sont plus perméables ces théories du complot. Un mot avant de marquer une première pause, Domitille Viau, vous qui êtes journaliste à Mon Quotidien. Alors, vous avez fait un pari totalement différent, c'est-à-dire que vous avez réinvesti la presse papier, la presse un peu à l'ancienne, avec un petit journal qui est très bien fait, sur des faits d'actualité et qui permet d'apprendre, de décrypter et puis de s'informer.
Oui, tout à fait, c'est un journal en 8 pages. Alors, on n'a pas vraiment pris le pari récemment d'être sur papier. En fait, on a toujours été sur papier et on n'est jamais passé à Internet. Pour la simple et bonne raison qu'on a interrogé nos lecteurs régulièrement et qui nous ont tous dit, enfin tous, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais
ouais.
Faut que je m'arrête.
Non, allez-y.
Ils nous ont tous dit qu'ils préféraient lire le journal sur papier que sur une tablette, par exemple.
Eh ben, il y a de l'espoir encore. Ouais. On va en parler avec nos invités dans quelques secondes. Comment décortiquer, comment décrypter les fake news. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, la suite du débat du Club des Idées. Comment lutter contre les fausses informations et les théories conspirationnistes qui se multiplient un peu partout dans les médias et notamment sur Internet avec les réseaux sociaux notamment. On continue évidemment d'en parler avec nos invités. Alors c'est vrai que la crise du Covid a donné lieu un déferlement de fake news. Je voulais qu'on commence par là. Le Covid a généré un volume sans précédent de fausses informations avec évidemment la caisse de résonance des réseaux sociaux qui est un nouveau paramètre quand même dans la diffusion des fake news. Alors je vous donne quelques exemples. La première d'entre elles a été postée le 18 mars, c'est-à-dire le lendemain du premier confinement par un homme sur Facebook qui explique très naturellement que le virus a été créé par l'Institut Pasteur, une vidéo qui a fait 3 millions de vues. Il explique que c'est l'Institut Pasteur qui a donc créé le virus. On a ensuite entendu que le virus serait transmis par les ondes de rayonnement de la 5G. Voilà, des pylônes 5G avaient même été incendiés en Grande-Bretagne, alors qu'en réalité, évidemment, inutile de le rappeler, mais le Covid existe bel et bien dans les pays où il n'y a même pas de 5G, mais ça a quand même donné lieu à une tribune de la part de 27 chercheurs qui ont été contraints, en quelque sorte, d'expliquer dans la revue scientifique The Lancet et de démontrer l'origine naturelle du virus. C'est quand même assez terrifiant, ça, Arnaud Mercier, professeur en communication à Paris 2 Assas, qu'on soit obligé, comme ça, systématiquement, de démonter les fausses informations, même quand, je ne sais pas comment vous la qualifiez, celle-là, mais elle est quand même assez farfelue.
Oui, farfelue, en effet. Alors, il y a deux choses. D'abord, ça s'explique. Dans les périodes de crise, et notamment des crises épidémiques, il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu des fausses nouvelles, des fausses informations, parce qu'on cherche des coupables, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne veut pas croire à un certain nombre de réalités.
Et puis le doute s'installe quand c'est une épidémie qu'on ne maîtrise pas,
bien.
Qu'on ne connaît pas.
Absolument.
Donc ça suscite évidemment la machine à fantasmes.
Absolument. Et comme en plus, c'était vraiment un problème nouveau que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux, n'étaient pas capables de donner une réponse, on comble ce vide avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire des théories plus ou moins conspirationnistes. Mmh. Ça, c'est vraiment... Toutes les épidémies donnent lieu à ça.
Ouais.
Et c'est le premier point. Et puis, la deuxième chose, c'est que face à cette situation, il y a toujours l'idée que ceux qui sont les sachants sont plus ou moins séparés des réalités, du peuple, etc. Et donc, dans la mentalité conspirationniste, il y a toujours cette idée qu'effectivement, il va falloir se méfier de ce que disent les sachants, et vous en êtes, les journalistes, vous faites partie de ce bloc-là.
Oui, j'ai regardé les indices de confiance envers la presse, on n'est pas super bien lotis en ce moment, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, y a vraiment cette idée derrière ça, qu'en effet, il faut se méfier de la parole des sachants. Et c'est quand même dramatique, parce que c'est justement au moment où on a besoin du maximum de science qu'on voit apparaître des discours de défiance vis-à-vis de tout ce qui est qui a l'air d'être un savoir institué.
Alors, question qu'on a abordée tout à l'heure, Thomas Huchon, qui sont ces inventeurs, ces colporteurs de fausses informations? Ont-ils un objectif caché ou ce sont simplement des gens crédules et défiants vis-à-vis des institutions, comme ça vient d'être dit? Parce qu'il y a aussi là-dedans, et on va en parler après, du danger que ça représente pour la démocratie, des motifs politiques, des motifs parfois idéologiques. Est-ce qu'on arrive dans ce grand spectre de la fake news, est-ce qu'on a un profil type à peu près de ces personnages?
Alors, Il n'y a pas vraiment de profil type de gens qui produisent des théories du complot, mais on peut remarquer un certain nombre de choses qui sont un peu similaires. La première, c'est que ce sont des gens qui ont un intérêt à le faire. Quel que soit cet intérêt. Est-ce que c'est pour avoir de l'influence sur les réseaux? Est-ce que c'est pour exister? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? C'est-à-dire que ça peut être aussi une solution miracle.
Une machine à clic.
Ah ben c'est une énorme sur machine Internet. À clic. Enfin, si vous prenez le cas du pape des complotistes sur la planète, Alex Jones, l'Américain, c'est à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel pour son média InfoWars, ses pages
donc
sur tous les
réseaux.
Donc ça
devient un business là carrément.
Ah bah oui, ça devient un énorme média.
Si vous prenez le cas un marché de la fake news.
Voilà, si vous prenez le cas de Breitbart News aux États-Unis, qui est un site qui a aussi gagné beaucoup d'argent, qui avait été racheté à l'époque plus de 10 millions de dollars par son propriétaire Robert Mercer aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a ça. Il y a aussi tout un tas de gens qui ont un intérêt politique à défendre toutes ces thèses-là. Je pense bien entendu à tous les courants qui utilisent les fake news comme un argument électoral. Alors effectivement, le Rassemblement National l'a fait à de nombreuses reprises. On a vu par exemple Marine Le Pen avoir des doutes sur l'origine du virus, des doutes sur la vaccination. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont des gens qui vont dévoyer le doute. C'est-à-dire qu'ils vont présenter comme un doute quelque chose qui n'est pas du tout un doute, qui est une suspicion. En fait, on ne peut pas, du jour au lendemain, se mettre à croire que tout le monde nous ment et que tout le monde nous manipule si on ne le croit pas un tout petit peu à la base. Le monsieur dont vous avez parlé, qui a diffusé cette info le 18 mars 2020, que le Covid était créé par l'Institut Pasteur, eh bien, c'est quelqu'un qui a vu des informations sur Internet, qui a cru, en lisant deux articles sur le web, qu'il était devenu virologue, et il a mal interprété un document scientifique réel, pour le coup.
Alors, Dominique Domiti Vio est également avec nous, journaliste à Mon Quotidien, quotidien d'actualité pour les 10-13 ans. Est-ce que c'est un élément, le traitement des fake news, que vous prenez en compte? Est-ce que vous démontez aussi les fausses informations en vous disant, tiens, peut-être que nos enfants, nos jeunes, ils en ont entendu parler à l'école et donc on va en parler?
Oui, ça arrive. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on traite beaucoup les sujets qui sont des terrains propices à l'émergence de fake news. Le Covid, par exemple, on en parlait. On a fait beaucoup d'articles sur le Covid parce qu'en plus, c'est un sujet anxiogène, on le sait, a fortiori pour les enfants qui n'ont pas toutes les clés en main, qui manquent d'informations, qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément lu ou vu beaucoup de choses sur le sujet. Donc, on essaie de leur donner des informations fiables là-dessus, histoire que après, s'ils entendent des choses un petit peu farfelues, un peu étranges, ils se disent « Ah, bah c'est bizarre, c'est pas ce que j'ai lu, c'est pas ce que j'ai lu dans mon journal », donc ils aient des doutes. Et on fait aussi de l'éducation aux médias et on parle aussi parfois plus frontalement des fake news. On peut leur donner des indices.
J'invite tous les parents qui nous écoutent à aller voir parce que c'est vraiment un document, un journal. Ça fait 4 pages qui est très bien fait. 8 pages. Voilà, parce qu'il y a le petit quotidien et puis il y a le quotidien.
Exactement, il y a le petit quotidien qui fait 4 pages, mon quotidien qui fait 8 pages et au-dessus pour les 13-18, il y a l'actu qui fait également 8 pages.
Bien, c'est un formidable rendez-vous d'actualité. Vérifié et très pédagogique. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour continuer à parler des fake news et puis on entendra les témoignages et vos questions. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Comment lutter contre les fausses informations, les fake news et les théories conspirationnistes, notamment chez les jeunes? On en parle donc ce soir avec nos invités et on est en ligne avec Lourocq Bonin. Bonsoir, vous êtes en terminale au lycée international de l'Est parisien de Noisy-le-Grand. Bonsoir Lourocq.
Bonsoir. Bien. Bonsoir.
Vous êtes un jeune homme qui aime l'information, je crois, mais vous vous méfiez, dites-vous, des médias traditionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Eh bien, parce que je pense que l'information, elle devient de plus en plus positionnée, elle devient de moins en moins pragmatique. On va de plus en plus rechercher à prendre avis, à prendre position. Enfin, quand je lis les journaux maintenant, ils sont quasiment tous orientés. Il n'y a pas, il y a jamais une information qui est directe. Et je pense que les gens qui arrivent et qui découvrent ces informations, qui ne sont pas habitués à prendre de l'information, parce qu'il est en particulier chez les jeunes, nous en l'occurrence on a des formations, mais ce n'est pas le cas partout, eh bien ça va devenir difficile de séparer ce qui est la réalité de ce qui est l'avis de l'auteur.
Je peux vous donner un exemple. Vous, Laura, vous informez où? Sur quel support?
Moi je m'informe beaucoup avec, auprès de mes amis, nous discutons beaucoup.
Ensuite, et vous pensez qu'ils sont plus fiables que les médias?
Je ne pense pas qu'ils sont plus fabuleux que les médias, non, mais ça me permet ensuite d'aller vérifier les informations, d'aller me renseigner plus sur certains sujets. Disons que c'est le moment où je suis au courant, et ensuite je vais vérifier la véracité, bien sûr. Ensuite, je regarde Hugo Décrypte, je pense que beaucoup de jeunes s'y fient. Bien sûr, je vérifie les informations quand elles ne sont pas vraisemblables.
Oui.
Et les canaux d'information donc, sont un peu multiples. sinon, beaucoup au lycée, ce qui est bien, c'est qu'avec beaucoup de professeurs, nous discutons de l'actualité.
Oui.
Et ça, je pense que c'est une pratique qui devrait être plus commune à l'éducation.
Bien, très bien. Merci infiniment pour votre témoignage, Laure Houbonin. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Vous êtes en terminale, alors la vie étudiante vous attend. J'espère qu'elle sera plus heureuse l'année prochaine que cette année, évidemment. Merci en tout cas pour ce témoignage. Avant d'entendre votre réaction, Thomas Huchon, sur ce qui vient d'être dit, je voudrais, pour prolonger ce témoignage, écouter ce que nous dit, par exemple, un prof d'économie dans un lycée de Créteil. Il s'appelle Nicolas. Il a du mal parfois à expliquer la véracité des faits d'actualité à des jeunes et il nous raconte cette anecdote. C'est un extrait d'un reportage de Yasmina Katou.
Cet élève qui déclare en classe sur le ton de la plus claire évidence que le gouvernement chinois a manufacturé le coronavirus dans le but de réduire sa population. Alors quand on est confronté à ce genre de choses, on ne sait pas vraiment quoi dire. Quoi.
Voilà, qu'est-ce qu'on répond à ça, Thomas Huchon ?
Ben, je crois qu'en fait, la meilleure réponse à une fake news, c'est surtout pas une réponse. C'est une question. Et en fait, ce jeune homme dans cette salle de classe qui nous dit écoutez, le Covid a été inventé par le gouvernement chinois pour réduire sa population, il faut surtout pas chercher à contre-argumenter, ça sert à rien. Vous allez essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, donc ça ne marche pas du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est interroger la raison pour laquelle il va croire ça. Et donc d'essayer de remonter la source de l'information, remonter sur les différents supports qu'il a utilisés. J'entendais ce jeune homme, cet autre jeune homme qui nous expliquait que lui, il pense qu'il n'y a pas d'info directe, que difficile de séparer la réalité, que les médias sont positionnés et que ce n'est pas pragmatique. Mais je crois qu'en fait, c'est une découverte pour lui parce qu'il est jeune. Mais tous les médias ont toujours été comme ça. Quand on lit Le Figaro, on ne lit pas Libération. On peut lire les deux, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Donc, je crois qu'il faut arriver à faire quelque chose. C'est un travail de questionnement. Oui. Il ne faut surtout pas décrédibiliser les personnes qui sont en face de nous. Et il ne faut surtout pas considérer qu'ils sont bêtes. Oui. Les gens qui sont manipulés ne sont pas bêtes. Oui. Et souvent, ils sont d'ailleurs assez intelligents. Ils ont une vraie capacité de réfléchir.
C'est vrai, Arnaud Mercier. C'est important de le rappeler que cette montée en puissance des fake news se fait dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias traditionnels. On évoquait tout à l'heure, avec un peu d'humour, la confiance que nous accordent les Français. Seuls 24% des Français estiment que les journalistes, par exemple, sont indépendants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous font pas confiance, mais ça veut dire qu'il y a une petite méfiance, voilà.
Et elle est peut-être légitime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout de suite et d'emblée que la profession de journaliste serait exempte de toute forme de pression politique, commerciale, des actionnaires. Enfin, donc, la vraie question, c'est pas...
C'est vrai, vous avez raison sur le biais politique. Oui. Mais quand il s'agit de raconter l'actualité et la marche du monde, il y a peu de grands médias traditionnels qui inventent des fausses informations.
Ah, mais bien sûr, c'est pas du tout le sujet.
Je voudrais partager avec vous quand même ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, notamment américaine. Les fake news de Donald Trump, où on a atteint là des sommets. On vous a préparé une petite compilation, écoutez.
CNN's fake news. You're CNN. You're fake news. CNN is fake news. I'm the president and you're fake news. CNN is fake news. Don't talk to me.
Voilà. Est-ce que c'est un danger? Donc Donald Trump a bien écouté ce que vous disiez, Thomas Huchon, il a inversé le paradigme.
Absolument, c'est-à-dire dès que
il était
c'est le retournement de l'accusation.
Voilà, dès qu'il était mis en accusation, il disait c'est des fake news, alors qu'il a été le candidat et le président à propager le plus de fausses informations dans l'histoire.
Trump, c'est 33 000 mensonges prononcés en 4 ans de présidence. 33 000 mensonges
identifiés par le Washington Post.
Identifiés par le Washington Post. Non mais c'est ça fait plus d'une vingtaine de mensonges par jour.
D'où ma question, parce que je voudrais qu'on avance. Est-ce qu'il y a un danger pour nos démocraties de la profusion de ces fake news?
Oui.
Par exemple, aux États-Unis, le mouvement complotiste QAnon, qui rassemble des millions d'Américains. Par exemple, lors de l'élection présidentielle d'Hillary Clinton, avec l'affaire, on s'en souvient, du Pizzagate. La rumeur selon laquelle une pizzeria huppée servait de façade à un réseau pédophile démocrate. Ça s'est quand même terminé avec un homme armé.
Absolument.
Qui est rentré et qui a fait feu dans la pizzeria en question, et plus proche de nous.
Et qui venait libérer les enfants.
L'élection présidentielle de 2017, chez nous en France.
Bien sûr,
Emmanuel Macron, financé par l'Arabie Saoudite. L'affaire du compte bancaire aux Bahamas, reprise par Marine Le Pen dans le débat d'entre-deux-tours. Et puis la Rolex de Jean-Luc Mélenchon. Il coûtait 18 000 euros, je crois qu'il a une montre à 200 euros en réalité au poignet.
Mais vous voyez qu'il y a quelque chose en fait dans ce retournement de la charge de l'accusation qui est terrifiant. En fait, c'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Et donc quand Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d'avoir un compte au Caïman ou aux Bahamas et d'avoir caché de l'argent dessus, mais en fait, il peut pas, en réalité, il ne peut pas se défendre. C'est pour ça que dans nos sociétés, on a conçu le fait que c'était à celui qui portait l'accusation de faire la preuve de ce qu'il avançait. Oui. Sinon, ça s'appelle de la diffamation.
Hein ?
Le problème, c'est que la manière de porter ces accusations, d'avoir le débat public, elle ne se passe plus dans des endroits qui sont réglementés. Tout ça se passe sur Internet, majoritairement sur les réseaux sociaux, des plateformes américaines qui ne respectent pas la loi française et surtout qui n'assument absolument pas leurs responsabilités dans tout ça. Vous parlez du mouvement QAnon, mais qui peut imaginer une seule seconde que sans la plateforme Facebook, il y aurait eu l'attaque du Capitole ? C'est absolument impossible de passer de l'un à l'autre.
Bien.
Donc, bien entendu que c'est un immense danger pour nos démocraties, pour une raison autre aussi, c'est que les fake news n'influencent pas seulement ceux qui y croient. Elles influencent aussi ceux qui n'y croient pas. Regardez Jean Castex qui est obligé de se vacciner devant toutes les caméras pour prouver qu'il se fait vraiment vacciner.
Et encore que les scientifiques vont dire que
c'était faux.
J'ai entendu un médecin dire ça à propos du vaccin inoculé, par exemple, au ministre de la Santé, Olivier Véran.
C'est une vraie menace pour la démocratie.
S'est fait vacciner, je pense qu'ils vont descendre un peu de leur truc.
La vraie menace pour la démocratie aussi, c'est qu'en fait, tout ça instaure une sorte de société du doute généralisé et d'une relativisation de plein de choses. Et donc, les gens finissent par ne plus savoir que croire.
C'est
et ça, c'est quand même très dangereux.
Quelque chose que vous ressentez, vous, Domitille Vio?
Oui, après, je crois qu'il ne faut pas non plus ne plus croire en rien. Il faut rester alerte et se poser des questions face à ce qu'on nous présente. Mais
on peut peut-être donner quelques clés pour aller reconnaître les fake news aux jeunes et aux parents qui nous écoutent. Regardez d'abord qui est l'auteur.
Ouais, alors avant ça, même, la première chose, c'est de savoir que ça existe, en fait. D'avoir conscience que ça existe, c'est la première étape. Ensuite, il faut effectivement regarder qui a écrit l'article. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un internaute qui se cache derrière un pseudo? À ce moment-là, ça risque d'être a priori un petit peu moins fiable.
Donc les sources?
Les sources, ça compte. Le site sur lequel l'article ou la photo ou la vidéo a été publié, si c'est un site qu'on n'a jamais vu, qui sort de nulle part, peut-être un peu moins fiable aussi que si c'est un grand média très connu. Et puis, il y a aussi quelques outils, si jamais on n'est pas sûr. Il y a le décodex qui a été fait par le Monde, qui permet de juger de la fiabilité d'un site.
Il y a plein de sites internet et d'outils qui ont été faits, qui sont relativement bien faits.
Et puis, il y a aussi des navigateurs qui permettent de faire une recherche d'images inversées. Ça, c'est très pratique aussi, comme Google Images ou Tinaï, qui permettent de retrouver en fait l'origine, la première publication d'une photo.
Bien.
Et du coup, ça permet de vérifier un petit peu si
ça correspond à un cas de détournement de photos, parce que c'est très souvent.
Une dernière question pour terminer. Vous savez quelle est la plus vieille fake news de l'histoire?
C'est pas l'histoire d'un mec qui a marché sur l'eau.
Du 20e siècle.
Pardon.
Attention là. Attention. Non, le canular radiophonique d'Orson Welles.
Ah, bien entendu.
La guerre des mondes. Bien 30 octobre 38. Des dizaines de milliers d'auditeurs ont cru au débarquement sur Terre d'une force de martiens agressifs. L'émission a entraîné un mouvement de panique aux États-Unis, mais tout était faux. Et il a réussi à montrer comment on construit une fausse information. Merci à tous les trois, merci à nos invités.
Merci.
On avait encore plein de choses à se dire, mais on est obligé de s'arrêter. Le temps tourne. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h51, dans quelques secondes, une info, une vraie, celle-là. On va revenir sur les archives d'Europe Soir. Et ce soir, un monument hollywoodien, le film Titanic. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h54, la suite du Club des Idées. Le jour où, 3 minutes pour comprendre, c'est l'heure des archives d'Europe Soir.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Julien.
Alors, on remonte avec vous en 1997 pour parler, je le disais, d'un monument du cinéma hollywoodien. L'un des films les plus connus de tous les temps, Titanic, et ses 11 Oscars.
Qui lui ont été décernés il y a tout juste 23 ans, dont plusieurs pour sa bande originale mythique. Le succès du film Titanic est immense dès sa sortie en 1997. 10 millions de spectateurs en 6 semaines, un record historique. À l'époque, la journaliste Isabelle Giordano essayait d'expliquer le phénomène sur Europe 1.
Les raisons évidentes, c'est que c'est bien sûr un film à grand spectacle, c'est un très beau scénario bien construit, c'est le grand retour du mélo. Mais il y a d'autres raisons moins évidentes. C'est d'abord un film qui est vu plusieurs fois. Et c'est vrai que les deux acteurs sont si jeunes, très peu connus en fait. James Cameron s'est beaucoup battu pour imposer Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Personne n'en voulait. L'un, on le trouvait trop trop jeune, l'autre on l'a trouvée trop pulpeuse. Alors c'est vrai que je pense que tout ça fascine la jeune génération.
Je suis le maître du monde.
Titanic est l'un des films les plus chers de l'histoire, 199 millions de dollars, mais aussi l'un de ceux qui a le plus rapporté, 2 milliards de dollars. En France, Titanic est toujours à ce jour le film ayant remporté le meilleur score au box-office, presque 22 millions d'entrées, avant Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchables.
Voilà, et comme tout le monde, on a revu le film, en tout cas moi c'est mon cas, pendant le confinement du printemps dernier. Alors le film Titanic, Angèle, c'est aussi le roi des records, 11 Oscars.
Titanic est le roi des Oscars en 1998, oui. Le film remporte celui du meilleur réalisateur pour James Cameron. Meilleur montage, meilleur son, bref, meilleur film, meilleur tout. Mais deux personnes repartent bredouille. Kate Winslet, alias Rose, qui était en lice dans la catégorie meilleure actrice, et Leonardo DiCaprio, qui lui, n'était même pas nommé. Alors, 11 Oscars, c'est une très très belle performance, mais Titanic n'est pas le seul à en avoir remporté autant. Il y a aussi eu Ben-Hur et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti en 2004.
Merci Angèle pour ces archives. Alors, on est quand même obligé, pour finir, d'écouter la musique. Céline Dion, évidemment.
Je vole, Jack.
Voilà, Titanic, Céline Dion. Ça va plaire à Émilie Mazoyer, ça, qu'on retrouve dans quelques secondes pour son émission. Émilie qui reçoit ce soir Arlo Parks pour la musique. Son émission jusqu'à 21h. Dans quelques instants, le rappel de l'info, Julien Pierce. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Merci de votre fidélité.